Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. La réforme des retraites à la une. Ce matin, rien n'est décidé, la preuve. Emmanuel Macron fait revenir la durée de cotisation dans le débat qu'il préfère à l'âge pivot pour partir. Explication dans un instant. Et satisfaction à la CFDT. Merci la France. C'est Donald Trump qui tweet en rentrant chez lui après le G7. Ça s'est décidément bien passé à Biarritz, contrairement au sommet de l'an dernier. Pour les avancées concrètes de ce G7. En revanche, il faudra attendre. Sur l'Iran, rien n'est gagné. Quant au Brésil, Jair Bolsonaro rejette l'aide internationale pour l'Amazonie en insultant encore Emmanuel Macron. L'Amazonie, l'urgence climatique, on attend votre invité sur ces sujets à 8h20.
Oui, il s'agit de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale. Appelez-nous, le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi passer par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
Dans ce journal également, Free qui coupe BFM TV, c'est fait depuis minuit. Des vélos à hydrogène rechargeables en une minute. Et puis une coupe bien dégagée pour la rentrée. C'est le moment d'aller chez le coiffeur.
France Inter.
Alors la retraite, c'est pour quand ? 64 ans, âge pivot, pour être indemnisé à taux plein, comme le préconise Jean-Paul Delevoye à partir de 2025. Ça n'est pas la préférence d'Emmanuel Macron, qu'il a dit hier soir en interview sur France 2. Le président penche plutôt sur une durée de cotisation minimum pour tout le monde. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Voilà qui rebat les cartes de la réforme la plus attendue du moment.
Oui, avec ce paramètre, la durée de cotisation que tout le monde, ou presque, avait fini par oublier. Tout le monde, sauf Emmanuel Macron, qui a relancé le débat hier soir.
Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Parce que si vous avez un accord sur la durée de cotisation, quand vous rentrez tard dans la vie professionnelle, vous finissez plus tard, mais généralement c'est que vous êtes rentré tard parce que vous avez fait des études. Et quand vous commencez tôt, vous cotisez plus longtemps, donc vous partez plus tôt. Ça me semble plus juste.
En fait, cela revient à maintenir un âge variable de départ à taux plein en fonction des carrières de chacun. Plus question d'âge pivot fixe pour tout le monde, donc à 64 ans, mais d'une prolongation de ce qui existe aujourd'hui, puisqu'il faut actuellement 41 ans et demi de cotisation pour partir avec une retraite complète. Un mode de calcul qui a les faveurs du négociateur pour la CFDT sur les retraites, Frédéric Sève.
Ça me semble être de bon augure d'une intention de discussion, d'une intention de ne pas dire le rapport Delevoye est tombé, maintenant circuler, il n'y a plus rien à voir. Maintenant, j'attends que ça se concrétise dans la discussion qui va s'ouvrir avec le gouvernement la semaine prochaine.
La dernière réforme en date prévoit un relèvement progressif de la durée de cotisation à 43 ans d'ici 2035. Or, Emmanuel Macron l'a redit hier, il vise un équilibre financier des retraites à l'horizon 2025. Le calendrier pourrait donc être accéléré. Ce sera un enjeu des négociations avec les partenaires sociaux.
Fabien Cazot, merci. Voilà de quoi ouvrir également la consultation citoyenne qui sera lancée avant l'écriture du projet de loi qu'on attend dans les mois qui viennent. Dans l'immédiat, c'est l'heure des derniers bilans du G7 de Biarritz, dont la principale avancée aura été l'accord trouvé avec les États-Unis sur la taxe GAFA. Et cette image d'unité entre les 7 chefs d'État, le bouillonnant Trump n'a pas débordé du cadre cette fois. Et de retour aux États-Unis, il n'a encore dégainé aucun tweet désobligeant, Grégory Phillips.
C'est peu dire que le premier tweet post-G7 de Donald Trump était redouté. L'an dernier, au départ du Canada, à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le président américain avait laissé éclater sa colère et refusé d'apposer sa signature sur le communiqué final. Là, son premier message sur Twitter est beaucoup plus conciliant. Une vidéo d'une minute intitulée « Merci la France ». Musique grandiloquente, montage hollywoodien, mêlant images de Biarritz et séquences où l'on voit Trump entouré de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement. Le Wall Street Journal utilise d'ailleurs ce terme conciliant, notant que sur l'Iran, sur la Chine, sur les GAFA, Donald Trump avait largement baissé d'un ton entre le premier jour du sommet et le dernier, et le site internet Politico note qu'il y aura bien un G7 l'an prochain aux États-Unis, à Miami, certes dans l'un des golfs appartenant au président, mais on aurait pu craindre que l'échec de 2018 sonne la fin de ce genre de réunion. Sans surprise enfin, sur Fox News, l'éditorialiste Stuart Varney est enthousiaste. Notre président a dominé cette rencontre comme aucun dirigeant ne l'avait fait auparavant. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Alors la question la plus lourde de ce G7 aura été celle de l'Iran, dont on mesure mal au-delà des mots ce qui peut vraiment bouger après ce sommet. Certes, Donald Trump a acquiescé quand on lui a demandé hier s'il était réaliste qu'il rencontre le président iranien Rouhani, mais à la condition que les circonstances soient réunies, c'est-à-dire si la porte est à peine entrouverte. Les Iraniens de leur côté veulent bien dialoguer. L'aller-retour de leur ministre des Affaires étrangères à Biarritz en est la preuve. Mais pas question de négocier un nouvel accord nucléaire pour satisfaire les États-Unis. Quand on écoute ce proche du gouvernement iranien, on se dit qu'on n'a pas beaucoup avancé. Il s'appelle Mehdi Zakarian, professeur de relations internationales à l'Université islamique de Téhéran.
Parler d'un nouveau accord, c'est le désir des Américains. Ce n'est pas possible de la part des Iraniens. Il n'y aurait pas une rencontre sur un nouveau accord, ça c'est sûr. Nous avons respecté l'accord nucléaire, nous avons respecté les règles de l'Agence internationale atomique. Il faut suspendre toutes les sanctions, tous les terrorismes économiques de la part des Américains. Et après, on peut commencer à négocier. Ça, c'est clair. Ça, c'était le message du gouvernement iranien, en plus de la part du peuple iranien.
Voilà, et ce matin, le président Hassan Rouhani appelle Washington à faire le premier pas en levant d'abord les sanctions contre l'Iran. Mehdi Zakarian, que vous venez d'entendre, a été joint par Juliette Jay à Téhéran. Voilà pour le dossier iranien. Quant à l'Amazonie, les pays du G7 ont décidé de débloquer 20 millions de dollars pour l'aider à lutter contre les incendies, avant d'en verser 30 autres avec l'ONU pour la reforestation. Vous pouvez vous les garder, a répondu dans la nuit en substance Jair Bolsonaro, qui conseille à Emmanuel Macron de s'occuper de sa maison et de ses colonies. Quand son chef de cabinet tense le français qui n'arrive même pas, dit-il, à éviter un incendie prévisible à Notre-Dame de Paris et qui veut nous donner des leçons. De toute façon, pour le pouvoir brésilien, la situation est sous contrôle en Amazonie. Les militaires sont là pour ça, sous les yeux de Mathieu Mondoloni, envoyé spécial de France Inter dans l'état du Rodinia.
Ça commence par une prière. Disposés en cercle, main dans la main, les militaires écoutent en silence le serment du sergent Santana. Il en appelle à Dieu, à Jésus, leur sauveur, dit-il. Seigneur, merci pour cette mission. Merci de nous permettre de lutter pour l'Amazonie, pour notre peuple et pour notre pays. Ces 16 hommes sont arrivés dimanche de tout le Brésil pour prêter main forte aux pompiers de la région.
Ces 4 voitures vont partir en direction de la commune de Buritis. N'oubliez pas de vérifier encore une fois votre matériel personnel ainsi que le matériel anti-incendie.
Le colonel Pérez, qui dirige cette compagnie de la Force Nationale, fait un dernier point avec ses hommes.
Nous déployons 4 groupes dans la ville de Buritis. Ils sont attendus par l'armée et les pompiers dans la région de Rondônia. Ensuite, ils iront tous ensemble dans la forêt pour combattre les incendies.
Les 4x4 démarrent, ils quittent Porto Velho. Sur la route, des terres calcinées succèdent aux paysages de forêt tropicale. Les voitures roulent vite et ne s'arrêtent que 3 heures plus tard et 200 km plus loin. L'orage gronde, impossible de s'enfoncer davantage dans la forêt. Ils vont passer la nuit dans une petite ville. Dehors, la pluie commence à tomber. Une aide précieuse et inattendue pour les militaires de la Force Nationale. À Riquemes, Eric Audra, Mathieu Mondoloni, France Inter.
La forêt amazonienne qui brûle à l'image des relations diplomatiques entre la France et le Brésil. C'est aussi sur franceinter.fr.
Et à 8h08, Florence, un dernier petit détour par Biarritz.
Alors, pas pour parler de la marche du monde, cette fois c'est promis, mais pour avancer sur de nouveaux vélos à hydrogène développés par une start-up de la ville qui a fait sa pub pendant le sommet et qui a épaté ses premiers utilisateurs, Cyril Gradiani.
Dans un Biarritz bunkerisé sans voiture, eux passaient partout et ne passaient pas inaperçus. Ces vélos blancs à énergie hydrogène ont été conçus par Pierre Forté, président de la start-up Pragma.
On va avoir un vélo qui a une autonomie très importante, donc 150 km d'autonomie pour ce vélo et un temps de charge de 1 minute seulement. L'énergie n'est pas stockée dans une batterie comme c'est le cas dans un vélo conventionnel, mais dans une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène. Le réservoir d'hydrogène, c'est une bouteille sous pression qui donne de l'hydrogène à la pile à combustible. Et la pile à combustible le transforme en électricité pour le moteur.
Emmanuel Macron ne l'a pas enfourché, mais un autre président, le chilien Sébastien Piñera, lui l'a testé dimanche avec le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne de la diplomatie économico-environnementale.
Tout à fait, nous avons ensemble fait quelques tours et je peux vous dire qu'il l'a trouvé très facile à prendre en main, léger, m'a-t-il dit, et donc surtout impressionné par la technologie. Made in France.
Manifestement, le Chilien a adoré cette balade. Il a commandé 1000 vélos à hydrogène pour la COP25 que son pays préside en fin d'année. Et il envisage aussi d'en implanter sur un de ses territoires une île légendaire avec ses statues monumentales, l'île de Pâques.
Et des totems de l'île de Pâques, on passe au tabou de la politique italienne qui vont peut-être encore tomber avec une nouvelle alliance contre nature entre le Parti démocrate de centre-gauche et les antisystèmes du mouvement 5 étoiles pour évincer la Ligue de Matteo Salvini. Les négociations vont bon train et les déclarations sont plutôt positives de part et d'autre. Sous le regard là des Italiens trop habitués aux combinations et de leur politique. Reportage à Turin, Isabelle Labéry.
Sous tension, les médias suivent minute par minute les ultimes négociations. Mais en ville, c'est encore la torpeur de l'été. Place de la République, Domenico.
Dominique.
En chapeau chic et bras de chemise. Il a honte du spectacle que donne la politique italienne. Même si c'est la démocratie. Les Turinois d'ailleurs ne comprennent toujours pas le coup de bluff du ministre de l'Intérieur qui a fait exploser la majorité dans l'espoir de provoquer des élections, un pari raté.
Comment il s'appelle là le shérif?
Comment il s'appelle là le shérif là?
Salvini.
Salvini a fait.
Il a fait l'imbécile. Après les régionales, il s'est pris pour un dieu. Résultat, maintenant il est personne. De toute façon, s'il y a des élections, j'irai pas. Ça fait 20 ans que je vote plus.
Même sur ces terres du Piémont, pourtant ancrées à gauche, la perspective d'une alliance 5 étoiles et démocrate suscite peu d'enthousiasme.
C'est toujours pareil. Ils font des promesses et une fois élus, chacun fait selon ses intérêts.
Les Italiens seront fixés jeudi matin au plus tard. Turin, Isabelle Labéry, France Inter.
Il est 8h12, ne cherchez pas BFM Télé sur le bouquet free.
Et oui, Xavier Niel a coupé le signal à minuit, il ne veut pas, et il l'a répété dans une tribune hier, payer le groupe Altice pour recevoir sa chaîne Tout Info, RMC Découverte et RMC Story, qui seront donc désormais disponibles sur la TNT, uniquement pour les abonnés free. Situation totalement anormale pour Alain Veil, le patron d'Altice.
C'est une situation qui est dommage, d'abord dommage pour les abonnés de free, effectivement, qui ne retrouvent pas leur matinale habituelle, parce que les trois chaînes de télévision, c'est près de 5 millions de Français. Donc c'est eux qui subissent en premier un grave préjudice. Je regrette vraiment qu'on en soit arrivé là. Quand je lisais hier la tribune de Xavier Niel, je me suis dit, mais tout ça pour ça, puisque j'ai l'impression que finalement, le désaccord, il est minime. Aujourd'hui, Free rémunère le groupe TF1 et le groupe M6. Et aujourd'hui, je ne suis pas là au titre d'Altice, je suis là au titre du fondateur de BFM TV et de Next Radio TV. Donc il n'y a pas de raison que notre groupe ne soit pas rémunéré comme les chaînes TF1, qui appartient à Bouygues, ou comme le groupe M6. Mais on n'en a pas le même prix, c'est environ 4 millions d'euros. On est rémunéré aujourd'hui par Bouygues Télécom, on est rémunéré par SFR, on est rémunéré par Canal+. C'est pas anormal qu'on soit rémunéré aussi par Free.
Alain Veil, interrogé sur France Info tout à l'heure, et ce matin dans les échos, Xavier Niel de Free précise qu'un premier accord avait été trouvé fin juillet avant d'être rejeté par le groupe Altice. 45 officiers de la Marine nationale, bientôt indemnisés par l'État dans le Nord Finistère, ils toucheront 3 à 10 000 euros chacun pour avoir été exposés à l'amiante et avoir subi un préjudice d'anxiété. C'est une condamnation définitive et c'est une information France Bleu Brésisel. Mauvais pour l'environnement et la santé, le ménage et ses produits toxiques dénoncés par 60 millions de consommateurs ce matin. L'association lance une pétition pour que soit créé un ménage score à l'image du Nutri-Score pour noter les produits ménagers en fonction de leur toxicité.
Il est 8h13, un sac à dos et une trousse neuve pour une rentrée des classes dans un collège tout neuf.
Il y en aura 6 en Seine-Saint-Denis lundi prochain. Les familles dans ce département sont de plus en plus nombreuses. Alors chaque année, il faut construire de nouveaux établissements, comme à Noisy-le-Sec, collège Françoise Héritier. Reportage signé à Gérard Mohamed.
On entend encore le bruit des perceuses et des marteaux-piqueurs dans le CDI. Mais tout devrait être prêt pour la rentrée. Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, est conquis.
Très beau, très lumineux.
Tout comme Laurent Rivoire, le maire de Noisy-le-Sec. Il attend ce quatrième collège depuis des années.
En 2011, quand j'ai été élu, j'avais pris les chiffres d'entrée en CP. Donc en faisant la suite, on savait qu'en 2016, il y aurait des problèmes. Et en 2016, est arrivé ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a des enfants de tout un quartier de Noisy qui sont allés à Montreuil parce qu'il n'y avait pas ce quatrième collège. Et donc, on va pouvoir ramener tous les élèves de Noisy à Noisy.
Ils seront 300 en septembre, 700 élèves à terme. Et si le département a construit le collège, c'est bien la ville qui a dû acheter le terrain et lui proposer. C'est pas facile à trouver et ça coûte cher.
Les acquisitions, c'est à peu près 3,6 millions pour la ville. Pour nous, c'est un tiers de notre investissement annuel.
Oui, mais c'est un bon investissement pour les collégiens et aussi pour tous les habitants, explique Stéphane Troussel.
À chaque fois que nous construisons un collège, on a un pôle qu'on appelle ouvert, avec les espaces sportifs, avec une salle d'exposition, avec salle de réunion, pour que ces espaces puissent être utilisés le soir, le week-end, les vacances scolaires, parce que ça nous paraît être un bon usage des équipements publics.
Au total, le département a déboursé près de 23 millions d'euros pour construire ce collège.
Et avant la rentrée des classes ou la reprise du boulot, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas ?
Je sais pas, Florence.
Eh ben, on va chez le coiffeur.
Ah ben oui, c'est
vous
vrai,
y êtes allé.
Oui, j'ai fait.
Eh ben
oui.
Voilà, moi aussi, c'est une des périodes chaudes, moi aussi, de l'année, dans les salons, histoire de faire place nette, Jules Brélaz.
Quelques coups de ciseaux pour couper des cheveux devenus beaucoup trop longs.
Ah oui, très long.
À quelques jours de sa rentrée en CM2, Jules n'a pas eu le choix.
Maman, elle a dit oui, quand même, faut y aller. J'y vais tout le temps avant de rentrer à l'école. Parce que je trouve que c'est mieux pour aller à l'école. Pas avoir les cheveux longs qui tombent sur le visage. C'est moins civilisé, on va dire. Non, c'est juste que je trouve ça un peu plus correct. Faut se remettre dans le bain.
Sa maman parle même d'une tradition.
Ils ont des vêtements propres, ils sont propres et ils y vont chez le coiffeur. Pendant les vacances, on les embête pas avec ça. Et voilà, il a les cheveux qui ont poussé, donc c'est une nécessité aussi.
Ça met dans l'esprit de l'école, du coup, t'as plus l'impression de dire qu'il faut se remettre dans le bain. Du coup, tu vas te coucher plus tôt et te lever plus tôt.
C'est le même principe pour moi.
Lui, c'est Nicolas qui accompagne sa fille et qui en profite aussi.
Bah, parce que c'est histoire de se faire beau pour la rentrée, pour tout le monde.
Résultat, entre les parents et leurs enfants, Anne, la responsable du salon de coiffure, n'arrête pas.
C'est bien ça, c'est bien le rush, c'est bien le rush.
Quant à la mode de la rentrée,
se calque sur les joueurs de foot ou alors rentrée de plage, les surfeurs avec les grandes mèches qui tombent dans les yeux, où les parents sont pas du tout d'accord avec ce style-là. Ça te va, Jules ? Tu trouves bien ?
Jules l'a joué comme Ronaldo, rasé sur les côtés, un peu plus long au-dessus.
Tu veux plus court ou pas ?
Non, c'est bien comme ça.
Voilà, bien dégagé derrière les oreilles.
Moi, je me suis fait une petite couleur aussi, Florence.
Mais j'ai remarqué.
Vous avez
ça
vu
vous
cet acajou, comme ça
ouais,
va bien
ouais.
Allez, merci Florence Paracuelos, on parle cheveux tout à l'heure, après la matinale.